voici une question que nous devons considérer avec beaucoup de sérieux. Quelle est l'arme satanique la plus efficace contre les croyants? La parole de Dieu va nous donner une réponse utile pour tous nos combats spirituels, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'ai bien hâte d'entendre l'instruction que la Bible va nous donner aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Quelles ressources est-ce que le chrétien possède quand les gens le méprisent? Qu'est-ce qui arrive aux gens qui s'opposent au service de Dieu? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire au lieu de se venger de ses persécuteurs? Quelle est l'arme satanique la plus efficace contre les croyants? Quel devrait être le cri de ralliement du croyant? Que faut-il faire avant de mettre un nouveau croyant à l'œuvre pour Dieu? Restez avec nous, le Seigneur va nous enseigner sa parole et il va le faire par la bouche du pasteur Régent Joly. Remercions Dieu pour la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir lire sa parole, de pouvoir l'entendre prêcher, même à la radio et à la télé, et de pouvoir pratiquer ouvertement. Prions. Oui, Seigneur, on est reconnaissant pour cette liberté que tu nous donnes. Merci pour tous nos dirigeants qui nous laissent libres de pratiquer ta parole, de l'entendre prêcher, de nous réunir pour t'adorer et te louer. Merci pour la liberté qu'on a. Viens nous enseigner, Seigneur, afin que, à travers cette liberté, on puisse mieux te servir. Parle à nos cœurs aujourd'hui, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons complété notre tour des murailles et des portes de Jérusalem. La porte des chevaux nous a rappelé que le chrétien est un soldat de Jésus-Christ. Lorsque nous prêchons l'Évangile, les ennemis de Dieu se manifestent. La porte de l'Orient nous a rappelé le retour de Jésus-Christ. Nous avons aussi souligné le fait que nous sommes responsables d'annoncer et de partager la bonne nouvelle à notre famille. La porte de Mifkad nous a rappelé que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses selon notre service. Finalement, de retour à la porte des brebis, nous nous sommes rappelés que Jésus a porté sur lui la peine de tous nos péchés. Des segments de la muraille furent assignés à différentes familles, différents corps de métiers et aux habitants de différentes villes. Aujourd'hui, nous verrons que les ennemis des Juifs cessèrent de se moquer d'eux lorsqu'ils virent que les murailles s'élevaient rapidement. Plutôt que de chercher à décourager le peuple en le ridiculisant, ils vont maintenant adopter une autre tactique. Débutons notre lecture, chers amis, de Néhémie chapitre 4, verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Puisque se moquer des Juifs ne les a pas arrêtés de construire et que le travail progressait rapidement, Sanballat se moqua d'eux en public. Ils se sont moqués de ce qui était précieux aux yeux de Dieu. Verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Les questions que l'ennemi pose étaient pertinentes. Les enfants d'Israël devaient se les poser aussi. Le ridicule est une méthode que l'ennemi utilise. Il y en aura encore, il y en aura toujours. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3. Sache, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. C'est le verset 3 que je viens de vous lire de la deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Et le verset 4 nous dit, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Oui, chers amis, il y aura toujours des moqueurs concernant l'œuvre de Dieu. Poursuivons notre lecture, Néhémie chapitre 4, verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit, « Qu'il bâtisse seulement! Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre! » Tobija, l'ammonite, ajouta des remarques sarcastiques aux moqueries de Sanballat. Il y avait une touche d'humour dans ses paroles, car le renard est un animal qui court avec un pied léger. Lorsqu'il court, il laisse des traces peu profondes. Un renard peut courir sur un mur et ne rien y déranger. Ce que Tobija dit, c'est que les faibles juifs construisent une muraille que même un animal au pied léger, comme un renard, pourra jeter à terre. Après tout, certains travailleurs n'en sont-ils pas des orfèvres et des parfumeurs? L'ennemi les ridiculisait, et cela devait décourager ceux qui avaient travaillé si fort. Le chrétien possède une ressource, la prière, chers amis. Quelle sera la réaction de Néhémie? Il possède une ressource, la prière, et il y a recours. Nous aussi, nous avons la prière. Nous sommes exhortés à prier, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Allons et observons maintenant notre Néhémie à l'œuvre, les versets 4 et 5. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Si nous nous opposons aux serviteurs de Dieu, nous nous opposons à Dieu lui-même. Ces hommes qui s'opposaient à la construction de la muraille étaient les ennemis de Dieu et non seulement les ennemis des Juifs. Cette prière fut faite dans la période de la loi, donc les Juifs avaient le droit de demander justice à Dieu. Et c'est ce que Dieu allait faire. Il en est encore ainsi. Un jour, Dieu jugera ce monde, et rien n'est changé à cela. Le croyant ne doit pas se venger, mais il doit régler certains problèmes. Cependant, aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la grâce, et Dieu demande aux croyants de ne pas se venger. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, nous lisons « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Paul a aussi dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains, chapitre 12, verset 19 « Nous devons laisser certaines choses entre les mains du Seigneur, qui s'en occupera. Si nous essayons de le faire nous-mêmes, cela signifie que nous ne marchons plus par la foi. Cependant, Dieu nous demande de régler certains problèmes. En lisant les Écritures, nous voyons que nous devons parfois adresser des reproches à certaines personnes. Paul a dit aux Corinthiens de régler certains problèmes dans leur Église. Paul aussi dit à Timothée, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. Censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Reprendre signifie convaincre, censurer signifie menacer, et exhorter signifie réconforter. L'enfant de Dieu doit utiliser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée a besoin d'être utilisée pour enlever ce qui est corrompu et mal dans nos vies. La parole est aussi un baume pour réconforter le cœur brisé des chrétiens. Dans certains cas, il est nécessaire de reprendre une ou des personnes. Puisse Dieu convaincre de péché un pasteur qui n'est pas fidèle et obéissant dans ce domaine. Nous vivons à une époque où les gens veulent n'entendre que des choses flatteuses. Ils veulent n'entendre que des choses agréables qui ne les emmènent pas à se remettre en question. Ils ne veulent pas entendre une prédication qui leur reproche leur indifférence et le péché dans leur vie. Donc, de nombreuses églises, même certaines qui affirment enseigner la Bible, ne prêchent que sur des sujets plaisants. Quoi qu'il soit vrai, que de nombreux passages des Écritures traitent de choses agréables, d'autres passages traitent du péché et de ses conséquences, ce qui est beaucoup moins agréable. Certaines personnes pensent qu'on ne devrait jamais prêcher au sujet des éléments désagréables de la parole de Dieu. Cependant, Néhémie était sous la période de la loi, et il pouvait demander à Dieu de lui faire justice contre ses ennemis. N'oublions jamais que si nous nous opposons aux serviteurs de Dieu, nous nous opposons à Dieu lui-même. Les ennemis du peuple de Dieu sont les ennemis de Dieu. L'action doit suivre la prière, chers amis. Cependant, la vie du peuple de Dieu n'en est pas qu'une de prière. Celui-ci doit passer à l'action et aller au combat. Qu'ont donc fait les Juifs devant les nouvelles menaces? Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Néhémie ignora les remarques sarcastiques de Sanballa et de Tobija. Il pria Dieu et poursuivit la construction des murs de Jérusalem. Le peuple surmonta cette forme d'opposition et reprit le travail de bon cœur. Verset 7. Mais Sanballa, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Oui, chers amis, lorsque les ennemis des Juifs virent que leur tactique ne fonctionnait pas et que les Juifs ne se décourageaient pas, ils décidèrent d'avoir recours à des actions plus fortes. Versets 8 et 9. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Notez que Néhémie a encore recours à la prière, sa ressource principale. Sa devise est « Prions et veillons ». Les Juifs prièrent leur Dieu. C'est bien de prononcer des platitudes pieuses lorsque nous les appuyons avec de l'action. Combien de fois les chrétiens disent « Nous allons prier à ce sujet ». Nous entendons de telles paroles très souvent. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous ferez après avoir prié. Un jour, le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, demanda à un membre de son église s'il pouvait faire une certaine chose. « Je vais prier à ce sujet », répondit la personne. Le pasteur n'accepta pas cette réponse. « Une minute !» dit-il. « Si cela est ta façon de me dire non, dis-moi-le franchement maintenant, et je demanderai à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de prier à ce sujet. Tu veux rendre ce service ou tu ne le veux pas? Quelle est ta réponse? » En fait, l'homme ne voulait pas, et le pasteur McGee demandait l'aide de quelqu'un d'autre. Souvent, les chrétiens répondent avec des platitudes pieuses. « Je vais prier pour cela. » Mais où est l'action dans tout cela? Néhémie aurait pu puiser dans le lot de platitudes pieuses et dire quelque chose comme « Nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, donc nous n'agirons pas. » C'est un moyen de fuite, un moyen de jouer à l'autruche, chers amis. Beaucoup de chrétiens agissent ainsi aujourd'hui. Ils affirment faire confiance au Seigneur, mais quelle action entreprennent-ils? Si vous faites vraiment confiance au Seigneur, vous allez passer aussi à l'action. Néhémie savait que l'ennemi se préparait à attaquer Jérusalem, donc il a posté des sentinelles afin de veiller jour et nuit. Dieu s'attendait à ce qu'il agisse ainsi, bien entendu. Non seulement y avait-il du trouble venant de l'extérieur, mais il y en avait aussi à l'intérieur. Verset 10. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » C'est maintenant le temps d'être prudent, chers amis. C'est de l'intérieur que Satan peut faire le plus de dégâts. Une arme satanique efficace est le découragement. Lorsque les émissions du pasteur McGee étaient diffusées en Amérique du Sud, il reçut une lettre d'un jeune couple missionnaire qui en était à sa première mission. Ce jeune couple était découragé. D'après leur lettre, les deux missionnaires semblaient sur le point de plier bagages. « Si vous saviez ce que cela représente pour nous, dirent-ils, de recevoir vos émissions tard le soir dans ce pays étranger, parmi des gens dont nous ne comprenons pas encore la langue. » C'est le diable qui cherchait à décourager ces jeunes missionnaires. L'équipe de Maggie passait aussi par une période de découragement et elle était prête à retirer l'émission des ondes de la station sud-américaine. Mais le Seigneur intervint de façon merveilleuse et la diffusion se poursuivit. L'équipe de Maggie était heureuse car elle savait que les études bibliques diffusées sur les ondes encourageaient le jeune couple missionnaire. Le Seigneur bénit et encourage les siens. Le diable essaie de décourager les croyants et les serviteurs de Dieu. Versets 11 et 12. Et nos ennemis disaient, « Ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Voulant profiter du découragement des Juifs, ses ennemis planifièrent une attaque sur Jérusalem. Ils pensaient pouvoir surprendre les Juifs. Quelle sera la stratégie de Néhémie devant les plans de l'ennemi? Verset 13. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière les murailles et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Néhémie plaça chaque homme à un endroit où il pouvait défendre sa propre famille, ce qui le rassurait lorsqu'il travaillait à la construction des murs. Si la famille avait été dans un endroit retiré, l'homme n'aurait pas su si elle était en sécurité ou non. Donc, Néhémie plaça chaque homme avec sa famille et il leur fournit toutes les armes nécessaires. Verset 14. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Quel doit être le cri de ralliement du croyant? La devise pour rallier tout le monde était « Souvenez-vous du Seigneur. » Paul encouragea le jeune Timothée avec ces mêmes paroles. 2 Timothée chapitre 2 verset 8 « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Ce cri de ralliement doit être le nôtre aujourd'hui. C'est celui qui fut utilisé par les Juifs au temps de Néhémie, et c'est celui qui est encore utilisé à notre temps par l'Église. Verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Les Juifs purent reprendre le travail alors que les projets de leurs ennemis échouèrent. Néhémie était un homme ingénieux. Lui aussi pouvait utiliser des stratégies. Cet homme me plaît. J'aimerais qu'il soit avec moi aujourd'hui. Versets 16 et 17. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Imaginez la scène. Des ouvriers qui travaillent avec une truelle dans une main pour travailler et une épée dans l'autre pour se défendre ainsi que la ville. Nous aussi, nous devrions tenir une truelle d'une main et une épée de l'autre. La truelle représente le fait que les croyants devraient s'édifier dans la foi. Édifions les croyants avant de les mettre au travail. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui affirment que lorsqu'une personne est sauvée, elle devrait immédiatement se mettre à témoigner. Je ne pense pas que l'on devrait confier un ministère à des personnes récemment converties. Ils doivent d'abord apprendre par expérience que Jésus nous sauve, nous garde dans ses voies et répond à tous nos besoins. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. C'est bien d'entendre dire qu'un tel fut sauvé hier ou la semaine dernière, mais j'aimerais entendre ce qu'il dira dans 2 ans, afin de voir s'il fut affermi dans sa foi. Voyez-vous, chers amis, nous avons tous besoin d'être édifiés. Nous avons besoin de tenir une truelle, nous avons aussi besoin de tenir l'épée de l'Esprit. Cela aussi est très important. L'épée de l'Esprit est la parole de Dieu avec laquelle nous nous défendons. Nous devons tenir une truelle dans une main, une épée dans l'autre. Tenons une truelle dans une main, une épée dans l'autre, chers amis. Charles H. Spurgeon, un prédicateur célèbre à la fin du 19e siècle, publiait une revue appelée « L'épée et la truelle ». C'était un homme dont le ministère fut énormément béni par Dieu. Il croyait qu'un chrétien devait tenir une truelle dans une main et une épée dans l'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et le verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Revenons à notre texte de Néhémie, chapitre 4, verset 18 à 20. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « L'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. » Néhémie dit, « Je vais surveiller. Si vous entendez la trompette, rassemblez-vous auprès de moi, et nous affronterons l'ennemi. » Versets 21 et 22. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever, de l'aurore, jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Néhémie demande aux hommes venant de villes aussi éloignées que Jéricho de demeurer à Jérusalem pendant la nuit et de monter la garde. Verset 23. « Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. C'est de cette façon que nous devrions tous revêtir l'armure de Dieu. Cependant, les épreuves ne sont pas terminées. Bientôt, Néhémie se mettra en colère et les travaux seront presque arrêtés. » Chers amis, vous qui êtes croyants, nous devons tous revêtir cette armure de Dieu. Les armes de lumière. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Nous sommes appelés à revêtir les armes de lumière, à combattre comme un enfant de Dieu, non plus en utilisant la chair, mais en vivant selon et par l'Esprit, en reflétant la personne de Jésus-Christ. Dans mon entourage, les gens devraient savoir qui je suis, qui vous êtes. Est-ce que les gens savent que vous êtes un enfant de lumière, un enfant de Dieu, et que vous attendez le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Et en attendant, alors nous sommes appelés à nous dévêtir de ces vêtements souillés de la chair et à revêtir des vêtements de lumière, revêtir les vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Que les gens voient que nous portons maintenant la personne de Christ dans notre vie. Vous l'avez reçue? Vous pouvez la recevoir maintenant, cette personne. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Néhémie chapitre 5, versets 1 à 19.
Merci, Régent. J'ai tellement aimé l'exemple que tu as donné concernant le découragement. L'exemple du couple missionnaire qui était à sa première mission et qui vivait du découragement et qui était sur le point de plier bagage. Tu disais qu'ils ont été encouragés en entendant une émission du pasteur McGee. Qu'ils ont fait part au pasteur McGee du fait qu'ils avaient été encouragés par ses enseignements, et qu'à son tour, le pasteur McGee a été encouragé par leurs lettres à un moment où il vivait lui-même aussi du découragement. Tu as dit que le découragement était une arme satanique efficace, et c'est donc vrai. Je pense que tous ceux qui sont au service de notre Maître passent par des temps de découragement. Ça m'est arrivé à quelques reprises, mais Dieu a toujours pourvu un moyen de m'en sortir. Tantôt en utilisant une bonne parole de la part d'un frère ou d'une sœur en Jésus-Christ, tantôt par un passage biblique ou simplement par un événement bien ordinaire de ma vie. Dieu est bon, il est toujours là. D'ailleurs, Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il y a tellement de passages bibliques qui viennent à ma pensée quand je suis sur le point de me décourager. J'aimerais en partager quelques-uns avec vous. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui vit un découragement en ce moment. Et si c'est le cas, ceci est pour toi. Écoute bien. Le premier passage vient du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23, verset 11. Le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Mon ami, ce verset me fait réaliser que parfois, mes plans échouent à un endroit où je désire présenter l'Évangile à quelqu'un. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est souvent parce que Dieu veut m'envoyer ailleurs, là où il a préparé une grande bénédiction pour moi. Ensuite, encore dans le livre des Actes, au chapitre 28, verset 15, on peut voir à quel point on peut être encouragé par des frères et sœurs. Voici ce qui est écrit. « De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. » Frères et sœurs, encourageons-nous les uns les autres à prendre courage. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, peut-être que tu vis un découragement présentement à cause du fait que tu es éloigné de Dieu. Peut-être que tu as laissé un péché se glisser dans ta vie et que le Seigneur est en train de te reprendre. Ça m'est déjà arrivé. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a beaucoup parlé et encouragé par l'épître de Paul aux Hébreux au chapitre 12, des versets 4 à 6. Voici ce que ça dit. « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Mon ami, quand le Seigneur châtie ses enfants, ce n'est pas avec dureté. Il le châtie avec amour et pour son bien, pour qu'il soit heureux dans sa vie ici-bas, en attendant d'aller au ciel. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Oh, comme le Seigneur est bon! Es-tu d'accord avec moi?
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, allons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité.
Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.